Merci d'écouter CILS-FM, la radio communautaire francophone la plus à l'ouest d'Amérique. 16h précises en ce jeudi 19 janvier, 9 degrés Celsius au centre-ville de Victoria. L'émission Le Débrief commence à l'instant à l'antenne du 107.9 FM. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie jusqu'à 17h. Je passe tout de suite la parole à Denis Lépine qui vous livre ses deux bulletins d'actualité quotidien. Je mentionne au passage qu'en interview aujourd'hui vers 16h45, nous parlons de la crise politique en Gambie avec Adrien Blanc. Bonne écoute à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Approbation de 573 projets dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité du gouvernement fédéral. Selon le gouvernement Trudeau, bien les projets vont l'aider à respecter son engagement pour une meilleure accessibilité et plus de possibilités pour les Canadiens handicapés dans les milieux de travail et les collectivités. Ministre des Sports et des Personnes handicapées, Carla Caltrow, a déclaré que les projets auront des répercussions positives directes sur le quotidien des personnes handicapées et de leurs familles. Le Fonds pour l'accessibilité dispose d'un budget annuel de 15 millions de dollars. C'est demain que Donald J. Trump deviendra officiellement le 45e président des États-Unis. Les autorités américaines ont fait savoir que des mesures de sécurité rarement vues pour une cérémonie d'assermentation ont été prises pour éviter tout débordement populaire. Déjà, des groupes d'opposition au futur président ont fait savoir qu'ils allaient se faire entendre lors de la cérémonie. Julian Assange, fondateur du controversé site web WikiLeaks, a déclaré sur Twitter qu'il serait prêt à se rendre aux États-Unis à condition que ses droits soient garantis. La déclaration a été publiée dans les heures qui ont suivi la décision du président Obama de commuer la peine de Chelsea Manning, condamné à 35 ans de prison pour avoir transmis notamment plus de 600 000 documents confidentiels à WikiLeaks. Julian Assange a salué la décision du président américain. 18 nominations ont été décernées aux producteurs et artisans de l'Office national du film du Canada pour les prix Écran Canada. Les récompenses sont décernées par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision pour l'excellence des productions au cinéma, à la télévision et dans les médias numériques. La remise des prix aura lieu du 7 au 12 mars prochain au Centre Sony de Toronto. Tournée pan-canadienne du premier ministre Trudeau, bien ce dernier était dans le sud du Québec mercredi. Justin Trudeau s'est adressé notamment aux étudiantes et aux étudiants de l'université anglophone Bishop près de Sherbrooke. Il a répondu aux questions en français et en anglais. Il a dit en point de presse que c'était la chose à faire. Il a dit également que c'est important dans ces assemblées de pouvoir répondre aux préoccupations des gens. Il s'est dit très conscient que la langue de Molière prend le dessus au Québec et qu'il faut respecter la réalité des communautés en situation minoritaire. Investissement de 90 millions de dollars de la société d'ingénierie ABB pour la mise au point de solutions de prochaine génération pour les véhicules électriques. ABB travaille actuellement la construction à Montréal d'une administration centrale et d'un centre de recherche-développement. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a salué cet investissement à la suite d'une rencontre avec la direction de ABB. L'ouverture de l'administration centrale est prévue pour plus tard cette année. Selon une étude de l'Institut de recherche en services de santé de l'Ontario, eh bien un jeune sur 20 est atteint d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Le document nous apprend aussi que plusieurs d'entre eux se font prescrire des antipsychotiques, même en l'absence de troubles au niveau mental. L'enquête révèle que près de 12% de ces jeunes âgés d'1 à 24 ans prennent ainsi des antipsychotiques, dans certains cas conçus pour traiter la schizophrénie. Jane Philpott a mis un terme à sa visite à l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris et le bureau de la ministre fédérale de la Santé a indiqué dans une dépêche que l'événement s'est bien déroulé. La ministre a pris part au forum stratégique, à la réunion ministérielle sur la santé et à des débats d'experts avec les ministres de la Santé du Costa Rica, du Japon, de même que de la Norvège, de la Turquie et de la Commission européenne. Jane Philpott a dit que les ministres travailleront ensemble pour améliorer l'état des connaissances et réduire le gaspillage de ressources. Au sport, bien au baseball majeur, Tim Raines a été choisi pour le temple de la renommée. L'ancien voltigeur des Expos de Montréal sera intronisé en juillet prochain En compagnie de Jeff Bagwell et d'Yvonne Rodriguez, Reigns était éligible pour une 10e année. Reigns a récolté 86 % des votes, 11 de plus que les 75 % requis pour faire son entrée parmi les immortels du baseball. Au hockey maintenant, victoire de Winnipeg 6-3 contre l'Arizona, Pittsburgh 4, Montréal 1. Et Edmonton a défait la Floride 4-3. Ce soir, Ottawa sera à Columbus. Les Rangers de New York à Toronto contre les Leafs et Nashville à Calgary. NBA, victoire de Philadelphie 94-89 contre Toronto. Au tennis, aux internationaux d'Australie, la finaliste du dernier US Open, Karolina Pliskova, a gagné son match de deuxième tour. Et au football canadien, rappelons que les Blue Bombers de Winnipeg ont mis sous contrat le quart arrière Matt Nichols pour les trois prochaines années.
16h05 en ce 19 janvier. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Nous avons 8 degrés au centre-ville de Victoria et ça demeure maussade au cours des prochaines heures. Quelques averses intermittentes en cours de soirée. Le mercure descendra à 5 degrés cette nuit. Et pour demain, vendredi 20 janvier, minimum, maximum plutôt 8 degrés, généralement nuageux. Ça sera 4 degrés en soirée et le temps maussade prévaudra en ensuite, durant le week-end, 8 degrés et ensuite 9 degrés samedi et dimanche respectivement. Et pour le moment, à 16h06, c'est la pluie qui recouvre le sud de l'île de Vancouver. Donc, ça demeure nuageux et pluvieux au cours des prochaines heures. On y reviendra au cours de l'émission. Pour le moment, on se rend tout de suite au bulletin des Nations Unies. On se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal d'ONU Info. En titre, Antonio Guterres défend sa vision des Nations Unies pour les années à venir devant le forum de Davos. L'ONU dépêchera son envoyé spécial au pourparlers sur la Syrie à Astana. Plus de 40% des enfants réfugiés syriens en Turquie n'ont pas accès à l'éducation. Et la FAO ouvre à Berlin une conférence sur l'eau et l'agriculture. En dossier, le HR porte assistance aux ressortissants gambiens au Sénégal qui ont fui la crise politique.
So please welcome the new Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres.
Le secrétaire général a pris la parole ce jeudi lors du troisième jour du Forum économique mondial qui se déroule à Davos en Suisse. Antonio Guterres a affirmé que nous vivons dans un monde dangereux, marqué par la prolifération des conflits qui sont de plus en plus liés au terrorisme et par les inégalités qui se creusent malgré les avancées. Face à un tel monde, le chef de l'ONU a affirmé que la prévention était la priorité absolue. Il a souligné qu'il fallait réformer l'ONU pour la rendre plus efficace et a appelé à investir dans la résilience des sociétés, la cohésion sociale, l'emploi des jeunes et les besoins de base des populations. Pour ce faire, Antonio Guterres a appelé à créer de nouveaux partenariats avec le monde des affaires, y compris pour la mise en œuvre de l'agenda pour le développement à l'horizon 2030.
Même dans la mise en œuvre de l'agenda des objectifs de développement durable de 2030, un calcul qui a été fait récemment montre que le rendement des investissements pouvant être générés par la pleine mise en œuvre de ces objectifs représenterait quelque 30 milliards de dollars par an. Ce qui signifie que nous avons ici une opportunité à la fois de générer des investissements attrayants pour le secteur privé, mais simultanément de permettre au secteur privé de jouer un rôle clé pour s'assurer que ces objectifs soient effectivement accomplis. Parce que sans le secteur privé, nous n'aurons pas l'innovation. Nécessaire, pas la capacité nécessaire pour découvrir de nouveaux marchés, de nouveaux produits, de nouveaux services et pour pouvoir développer de nouveaux domaines dans l'économie. Sans le secteur privé, nous ne créerons pas assez d'emplois et nous n'apporterons pas assez de dynamisme et de stabilité aux sociétés qui doivent être renforcées par la mise en œuvre des objectifs de développement durable.
L'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie a été convié à la conférence d'Astana sur la Syrie, qui doit ouvrir lundi dans la capitale kazakh. Organisée par la Russie et la Turquie, l'ONU espère que la réunion permettra de trouver une issue aux entraves placées à l'accès de l'aide humanitaire. Le conseiller spécial de Staffan de Mistura a indiqué ce jeudi que la population syrienne endure son cinquième hiver, qui s'avère cette année être particulièrement rude, et l'ONU n'arrive pas à atteindre des centaines de milliers de personnes dans le besoin. On écoute Jan Egeland.
C'est un fait positif que l'actuelle cessation des hostilités permet de sauver des vies dans de nombreuses zones. Mais les combats ont été intenses dans d'autres endroits. Des milliers de familles ont été déplacées, notamment dans la vallée de Wadi Barada près de Damas. En termes d'accès humanitaire, cette cessation des hostilités a été une déception. En janvier, nous avons été approuvés pour atteindre seulement la moitié des personnes pour lesquelles nous avions demandé l'accès, et l'accès a été entièrement nié pour 5 localités dans le Damas rural, y compris Wadi Barada. Après l'approbation de notre plan mensuel, nous nous retrouvons dans un véritable et irrémédiable bourbier bureaucratique, à devoir obtenir des lettres de facilitation, des permis de sécurité et d'accès de la part du bureau du gouverneur, des forces de sécurité, des comités de sécurité et des partis armés, y compris les groupes de l'opposition. Et ils semblent tous faire systématiquement tout leur possible pour nous empêcher d'aider les femmes, les enfants et les blessés qui se trouvent de l'autre côté.
Le bien-être des réfugiés syriens, c'est aussi l'objet des inquiétudes de l'UNICEF, le fonds qui d'une part s'est félicité ce jeudi que pour la première fois depuis le début de la crise, le nombre d'enfants réfugiés syriens en Turquie qui fréquentent l'école est plus important que le nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école. La Turquie, qui abrite 1,2 million d'enfants réfugiés, a vu une augmentation massive des taux d'inscription de 50% depuis juin dernier. Toutefois, plus de 40% des enfants n'ont pas accès à l'éducation. Najwa Meki, porte-parole de l'UNICEF, s'est rendue à Gaziantep, en Turquie.
Il y a eu une nette amélioration dans le nombre d'enfants réfugiés syriens qui vont à l'école en Turquie. Ce nombre a augmenté de 50% entre juin 2016 et le début de l'année scolaire. Mais malgré cette amélioration, il y a toujours 40%, un peu plus de 40% en fait, des enfants réfugiés syriens qui sont en âge d'aller à l'école, malheureusement, ne reçoivent toujours pas une éducation. Donc, ils sont 380 000 enfants syriens qui ne reçoivent pas une éducation en Turquie. Et l'enfant qui ne va pas à l'école, surtout dans les conditions qu'on connaît pour les réfugiés syriens, c'est un enfant qui est vulnérable à l'exploitation, c'est un enfant qui est vulnérable au travail infantile, c'est une jeune adolescente qui est vulnérable au mariage précoce. Donc il est important qu'on fasse plus, que la communauté internationale fasse plus pour permettre aux enfants syriens d'aller à l'école là où ils sont.
Face à une demande alimentaire croissante et des pénuries d'eau de plus en plus fréquentes, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture considère qu'il est temps d'arrêter de considérer les eaux usées comme des déchets, mais plutôt de les voir comme des ressources pour l'agriculture. Une utilisation des eaux usées à des fins agricoles qui est au centre des discussions du Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture, réuni durant 3 jours à Berlin. Rappel des enjeux avec Olkay Unver, directeur adjoint de la division des terres et de l'eau de la FAO.
Avec l'augmentation de la population, l'évolution des régimes alimentaires et une concurrence croissante pour les ressources et la fourniture en eau, le manque d'eau va se faire plus largement sentir. D'ores et déjà, l'augmentation de la demande en eau, l'augmentation de 60% de la demande alimentaire et de l'agriculture sont responsables de 70% des prélèvements mondiaux en eau. De plus, le changement climatique est un facteur de stress supplémentaire. Et on estime que pour chaque degré de réchauffement planétaire, 7% de la population mondiale va être assujettie à une diminution de la disponibilité des ressources en eau, ce qui est tout à fait significatif.
Retour sur l'actualité avec la situation en Gambie. Le président élu Adama Barrow a prêté serment ce jeudi à l'ambassade gambienne à Dakar, au Sénégal. Le Conseil de sécurité s'apprête à se réunir pour examiner la situation à 13h, heure de New York. Pendant ce temps, le HCR, le commissariat pour les réfugiés, ainsi que d'autres agences humanitaires et les autorités sénégalaises ont déployé des missions conjointes en Casamance, au sud du Sénégal, qui borde la Gambie, pour porter assistance aux milliers de personnes, principalement des enfants, qui ont quitté la Gambie suite à la crise politique. Pour en savoir plus, Jérôme Longuet, adjoint Hélène Co du HCR à Dakar.
Depuis début janvier, on a plusieurs milliers de personnes qui ont quitté la Gambie pour le Sénégal. Les derniers chiffres que nous avons de la part des autorités sénégalaises, c'est qu'il y aurait au moins 26 000 personnes qui seraient passées entre le 1er janvier et le 16 janvier. Nos équipes du HCR qui sont sur le terrain confirment aussi que le flux de personnes est ininterrompu le 17 janvier et le 18 janvier. Donc ce chiffre de 26 000 est sûrement même un peu plus élevé. La plupart des personnes qui passent, 80% des personnes qui passent de la Gambie vers le Sénégal sont des enfants, le reste des femmes. Donc ces enfants sont accompagnés des femmes et ils restent chez des membres de leur famille. Vous savez que de chaque côté de la frontière, Sénégal-Gambie, ce sont les mêmes communautés. Ou alors, ils restent aussi dans des familles hôtes. Nous avons bien sûr des Gambiens, des Sénégalais, des personnes qui ont la double nationalité, aussi des Sénogambiens. Et puis nos équipes du HCR, qui sont aux différents postes frontières, ont aussi noter l'arrivée d'étrangers qui se trouvaient en Gambie, comme des Libériens, des Ghanéens, des Guinéens, des Mauritaniens, donc des flux mixtes qui passent de la Gambie vers le Sénégal depuis une quinzaine de jours.
Comment le HCR et les agences des Nations Unies réagissent par rapport à cette situation ?
Pour l'instant, les autorités sénégalaises sont en charge de la situation qui se passe à leur frontière, donc la frontière nord avec la Gambie, la frontière sud. Les agences humanitaires comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont là pour aider s'il y a une demande. C'est vrai que nous avons établi beaucoup de liens avec les autorités sur place, en Casamance, là où se passent les principaux afflux. Nous avons envoyé plusieurs équipes du HCR pour travailler avec ces autorités sur des plans de contingence. Nous avons identifié des sites d'accueil au cas où il y aurait des afflux majeurs, ça veut dire des centres pour les jeunes ou des stades. Et donc nous sommes prêts aussi à donner une aide au niveau de l'enregistrement et puis bien sûr au niveau de distribution. Mais pour l'instant, les autorités sénégalaises gèrent la situation. Elles nous ont communiqué mercredi qu'ils étaient prêts à prendre en charge dans les prochains jours jusqu'à 50 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 50 000 personnes qui vont passer, mais les autorités sénégalaises ont la capacité d'assister ces personnes, ce nombre de personnes. Une des distributions devrait commencer rapidement puisque l'une des remarques principales de ces autorités sénégalaises, c'est qu'il y a bien sûr la nécessité d'aider les villageois qui accueillent les réfugiés, les personnes qui passent. Les distributions, ça sera principalement de l'huile, du sucre, des couvertures, des nattes, des matelas, donc des articles de base pour permettre aux familles hôtes et aux réfugiés d'avoir un minimum d'assistance.
Et c'est avec Hélène Co que se referme ce journal de Nu Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
16h16, vous écoutez Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 en direct ou encore en rediffusion dans la matinée du vendredi 20 janvier. Changement d'échelle, on va passer de l'international au provincial et on commence avec une nouvelle aperçue dans le portail de Radio-Canada sur la crise de l'immobilier dans la province et particulièrement la crise de l'immobilier qui sévit ici à Victoria. Victoria envisage de taxer les maisons vacantes et les acheteurs étrangers. C'est la manchette de cet article paraissant dans le portail de Radio-Canada. Deux conseillers municipaux de Victoria souhaitent que la province déploie la taxe pour les acheteurs étrangers dans la région de la capitale et qu'elle donne la possibilité aux municipalités de taxer les maisons vacantes. Le conseil municipal de Victoria devait débattre aujourd'hui, jeudi, de la question à l'initiative des conseillers Ben Isitt et Jeremy Loveday. L'initiative des conseillers municipaux n'est pas étrangère aux réalités du marché locatif local. Nous avons eu vent de nombreuses inquiétudes de la part du public en ce qui concerne le problème de l'accessibilité au logement dans la région, a expliqué Ben Isitt. En novembre, la ville de Vancouver, rappelons-le, avait imposé une taxe de 1% sur les logements vacants, plus particulièrement sur les résidences secondaires vides ou celles qui sont louées moins de 6 mois par an. Il s'agit de la première initiative du genre au Canada. Les deux conseillers municipaux de Victoria souhaitent que la province de Colombie-Britannique attribue à la ville de Victoria et aux autres municipalités de la région le pouvoir de décider du montant de leur taxe. L'article de Radio-Canada rappelle qu'en août 2016, il y a environ 4 ou 5 mois, un peu plus de 5 mois, la province a introduit une taxe de 15% pour les acheteurs étrangers dans le Grand Vancouver, alors que le nombre de propriétés achetées par des étrangers a grandement baissé au cours des 4 semaines qui ont suivi l'application de cette taxe. Les achats d'habitations dans la région de la capitale, donc Victoria, ont augmenté durant les 2 mois qui ont suivi cette mise en place. Donc, il y a comme eu un effet de remplacement duquel Victoria a un peu souffert, indique cet article. Nous sommes conscients qu'il est de plus en plus difficile de louer une habitation ou d'accéder à la propriété pour les citoyens de Victoria, a déclaré Ben Isitt, qui est conseiller municipal de Victoria. Selon Isitt, toute mesure qui viendrait réguler le marché de l'immobilier serait utile compte tenu de l'envolée des prix de l'immobilier, aussi bien à la location qu'à la vente. Le conseiller municipal indique qu'il ne connaît pas encore les chiffres exacts relatifs au nombre d'habitations qui sont inoccupées à Victoria, mais que ce nombre devrait actuellement avoisiner la centaine. Donc autant de logements qui pourraient être sous le coup de cette taxe de 1%, voire plus, une taxe qui frappe les logements inoccupée. Donc une taxe qui serait possiblement créée. On va voir si les autres conseillers municipaux sont du même avis. Sinon, du côté de Vancouver, toujours dans le portail de Radio-Canada, on apprend que l'aéroport de Vancouver a révélé son plan d'expansion pour 2037. Un terminal plus vaste et de nouvelles pistes font partie du nouveau plan d'amélioration de l'aéroport international de Vancouver, lequel devrait voir le jour d'ici 2037. Le programme d'expansion de 5,6 milliards de dollars, intitulé Flight Plan 2037, est publié dans la journée de mercredi cette semaine, propose une série d'améliorations pour répondre au développement à long terme de l'aéroport, tout en réalisant les objectifs en termes de développement durable. C'est ce qu'a expliqué Craig Richmond à Radio-Canada. Il est président-directeur général de l'aéroport de Vancouver. Le record de fréquentation de l'aéroport de Vancouver a été battu en 2016, rappelle cet article, avec 22,3 millions de passagers, un chiffre qui pourrait atteindre 35 millions d'ici 2037, selon les estimations de l'aéroport. Les plus gros travaux d'expansion concerneront l'aile des vols internationaux, puisque les avions qui y transitent sont plus gros et requièrent donc plus d'espace. L'aéroport de Vancouver continuera à collecter et à analyser les retours des consultations publiques avant de se décider sur deux projets de voie, un le long de la plage Iona et l'autre au sud des terminaux d'aéroport. La première consultation avait mis en évidence des inquiétudes du point de vue du bruit et des répercussions environnementales. Donc vous trouverez cet article sur le portail de Radio-Canada. L'aéroport de Vancouver révèle son plan d'expansion d'ici 2037. Toujours à Vancouver, le journal Métro nous parle des championnats de patinage artistique. Les membres de l'équipe canadienne de patinage artistique qui rêvent de participer aux Jeux olympiques de Corée en 2018 devront d'abord passer par Vancouver. Vancouver, en effet, a été nommée la ville hôtesse des prochains championnats canadiens de patinage artistique qui serviront à déterminer l'identité des membres de l'équipe olympique canadienne. La présidente et directrice générale de Patinage Canada, Deborah Armstrong, a rappelé par voie de communiqué que Vancouver, c'est l'endroit où Tessa Virtue et Scott Moore ont décroché leur première médaille d'or olympique pour le Canada en danse et c'est aussi la province natale de nombreux patineurs artistiques. La compétition se déroulera du 8 au 14 janvier 2018 au Doug Mitchell Thunderbird Sports Center de l'Université de la Colombie-Britannique. Sinon, toujours dans les nouvelles de Colombie-Britannique, on fait un petit retour sur le portail de Radio-Canada. Je tiens à vous mentionner que Daniel Poli est le scientifique de l'année de Radio-Canada. Le biologiste Daniel Poli, c'est un francophone, est nommé scientifique de l'année de Radio-Canada 2016 pour avoir dévoilé l'ampleur véritable de la surpêche dans les océans de la planète. Décerné pour la première fois en 1987, le prix en est à sa 30e année d'existence. Le scientifique de 70 ans est un spécialiste des ressources marines dont l'expertise est mondialement connue. Le docteur Poli enseigne toujours à l'Institute for the Oceans and Fisheries de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC. Il y dirige depuis 1999 un projet de recherche, Sea Around Us, consacré à l'étude des tendances des pêcheries dans le monde. Donc vous trouverez cet article qui se poursuit sur plusieurs paragraphes dans le portail de Radio-Canada. Daniel Poli, scientifique de l'année de Radio-Canada. Sinon, dans les colonnes du Journal de Québec, une nouvelle, en fait un fait divers, qui concerne directement Victoria. Le titre « Québécois tué en Colombie-Britannique, le suspect finalement accusé de meurtre ». C'est sous la plume de Jean-François Racine. Le suspect à l'origine de la mort de Raphaël Bussière, un jeune homme de Lévis, en banlieue de Québec, qui a été tué à Victoria, a finalement été accusé de meurtre. Il s'agit de Justin Cart, 27 ans, qui traîne un lourd passé judiciaire pour des crimes souvent violents. À la suite de son arrestation, l'individu avait été accusé de voies de fait graves et de possession d'armes. La police locale recommandait toutefois une accusation de meurtre, laquelle a été déposée quelques jours avant Noël. L'individu demeure détenu et son retour devant le tribunal est prévu la semaine prochaine, le 25 janvier. Il est passible d'une peine de prison à vie. Justin Cart, cumule plus d'une trentaine de dossiers différents depuis 2008, notamment pour de multiples agressions, parfois même sur des agents de la paix. Sa fiche montre également plusieurs vols, non-respect des conditions de probation et possession de substances illégales. Il est originaire de Lévis, en banlieue de Québec. La victime de 20 ans, donc M. Bussière, a succombé à ses blessures après avoir été atteint au cou par un couteau. Ça s'est passé le 26 novembre dernier. Donc, si vous voulez tous les détails, le Journal de Québec revient sur ce fait divers triste qui est survenu à Victoria en novembre dernier. Québécois tué en Colombie-Britannique. Le suspect, finalement accusé de meurtre. Autrement, une alerte de la GRC, donc de la Gendarmerie royale du Canada, qui vient tout juste d'être émise il y a environ une trentaine de minutes. Ça concerne les drogues et bien sûr la crise des surdoses en Colombie-Britannique. En effet, la GRC confirme la présence de W18 dans le secteur du Lower Mainland, donc en région vancouveroise. Une substance puissante et nocive, le W18 a été saisi dans le cadre d'une enquête sur un cas de trafic de stupéfiants dans le Lower Mainland, en région vancouveroise, et l'enquête est toujours en cours, indique la GRC. Alors, je vous avais parlé dans le débrief de l'apparition de cette substance très dangereuse en Saskatchewan récemment. Je l'avais fait justement parce que de nouvelles substances sont venues s'ajouter au terrible fentanyl. Il y a aussi le carfentanyl et maintenant le W18, et on apprend à l'instant cet après-midi que le W18 en effet a été repéré en Colombie-Britannique après avoir été localisé du côté de la Saskatchewan dernièrement. Donc la crise des surdoses se poursuit et les substances mortelles sont assez nombreuses, ce qui va compliquer la tâche des autorités sanitaires. Maintenant, dans le portail de CBC, côté anglophone de Radio-Canada bien sûr, on nous parle de la Trump Tower. En effet, il y a bien une Trump Tower ici dans la province. C'est à Vancouver. Elle est en train d'être inaugurée. On a installé l'enseigne Trump Tower sur la tour. Et l'hôtel qui est abrité par cette tour ouvrira très bientôt. Les réservations ont été prises, peuvent être faites. Et l'hôtel ouvrira le 25 janvier, donc la semaine prochaine. Et comptera également 214 condos de luxe. Alors, une Trump Tower en plein centre-ville de Vancouver, alors que le président Trump, justement, entre en fonction à Washington. Ça ne fera pas le plaisir ça ne fera pas sourire les Vancouverois que cette tour qui les nargue, en quelque sorte, au centre-ville de Vancouver. Enfin, vous pourrez trouver l'article sur le portail de CBC. Et du côté du portail de Straight.com, c'est un média indépendant britanno-colombien. Le nom complet, c'est The Georgia Strait, puisque c'est un média écrit. Sur le site Strait.com, on revient sur la plainte qu'ont formulé les États-Unis à propos du vin britanno-colombien qui obtient des faveurs de la part du gouvernement, puisqu'il a la possibilité d'être vendu dans les épiceries. C'est un privilège qui n'est conféré qu'au vin britanno-colombien. Et vous le savez, on en a parlé dans le débrief, ça ne fait pas l'affaire de l'industrie viticole américaine qui menace de déposer plainte devant l'Organisation mondiale du commerce, la World Trade Organization. Donc la ministre de l'Emploi, Shirley Bond, membre du cabinet de Christy Clark, a déclaré aujourd'hui que la province était confiante d'être dans son droit de réglementer ainsi le commerce du vin en Colombie-Britannique. Et elle continuera de favoriser les vins britanno-colombiens dans les épiceries et les supermarchés de la province. Donc c'est la position du gouvernement qui campe en fait sur ces positions. Pour le moment, le gouvernement de Christy Clark ne reculera pas devant les menaces américaines de porter la cause devant l'Organisation mondiale du commerce. On fait une petite pause musicale. Je vous propose d'entendre un artiste dont on vient tout juste d'obtenir l'album ici à CILS. Il s'agit d'un Acadien, d'un néo-brunswickois qui s'appelle John Boulay. Il est à la tête de la formation John Boulay Blues Quartet. C'est du blues, vous l'aurez compris. La pièce s'intitule « Pas de bacon, pas de bisous ». On se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles du jour. Thank you.
sur le canapé. Tu me dis, excuse-moi, je veux pas te déranger. Mais 28 piastres, je veux aller chanter. Pas de bacon, c'est pas de bacon, pas de bisous. Couche avec le chien dans la cuisine, c'est pas de bisous si t'as pas de bacon. Ça fait plus longtemps que ça se passe comme ça. Pour remplir tes garde-robes, je me demande quel bois je vais me chauffer. Baby, ça commence à me miser. Pas de bacon, c'est pas de bacon, pas de bisous. Les voisins se demandent qu'est-ce qui se passe chez nous. C'est pas de bacon, pas de bisous. La banque a oublié ma belle maison. Excuse monsieur, t'as-tu 50 cents? C'est tout ce qui manque pour acheter du bacon. Pas de bacon, j'ai pas de bacon, pas de bijoux. Les voisins se demandent qu'est-ce qui se passe chez nous. C'est pas de bacon, pas de bijoux. Pas de bacon, j'ai pas de bacon, pas de bijoux.
John Boulay, Blues Quartet à l'antenne de CILS dans l'émission Le Débrief à 16h31. Merci d'être à l'écoute en rediffusion ou encore en direct en ce moment même. On a actuellement 8 degrés au centre-ville de Victoria, 7 degrés à Nanaimo et 6 degrés du côté de Vancouver. On va passer aux nouvelles du jour. J'ai repéré quelques nouvelles qui sortent du lot en quelque sorte pour vous. Donc on commence tout de suite par la question des suicides chez les Autochtones au Canada. C'est un article sous la plume de Vincent Brousseau-Pouliot. Suicide chez les Autochtones, qu'est-ce que ça prendra? Point d'interrogation. C'est la question que pose le grand chef Alvin Fiddler de la nation Nishwabe-Aski en Ontario. C'est le moment pour le Canada de se réveiller, a renchéri Joshua Frog, un leader autochtone dont la nièce de 12 ans s'est enlevée la vie au début janvier. Après deux autres suicides d'enfants autochtones, deux filles de 12 ans, Chantelle Fox et Jocelyn Jolene Winter, au début janvier dans la communauté autochtone ontarienne de Wapakakaka. Plusieurs leaders autochtones de partout au pays pressent le gouvernement Trudeau d'agir immédiatement. La semaine dernière, un rapport du bureau du coroner du Québec exhortait aussi les gouvernements à agir, dénonçant le régime d'apartheid dans lequel les Autochtones sont plongés depuis 150 ans, sinon plus. Le coroner enquêtait sur le suicide de 5 membres des communautés autochtones de la côte nord, du côté de la province de Québec, entre février et octobre 2015. En conférence de presse jeudi à Ottawa, les leaders autochtones veulent que le gouvernement Trudeau lance une stratégie nationale de prévention du suicide chez les Autochtones. Ils demandent aussi un plan de financement à long terme en santé pour les Premières Nations, à l'instar des provinces. Nos enfants méritent le même appui. Je sais que la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a le cœur à la bonne place, mais davantage doit être fait. Il y a urgence, a déclaré Perry Bellegarde, chef national de l'Assemblée des Premières Nations, lors de la conférence de presse à Ottawa. Le taux de suicide chez les Autochtones est 5 fois plus élevé que la moyenne canadienne, a fait remarquer le chef national Bellegarde. La culture doit changer. Quand est-ce assez? Nos travailleurs sociaux et nos communautés sont fatigués. Le gouvernement annonce peut-être des initiatives, mais des actions seraient certainement plus fortes que des mots, a déclaré le grand chef Jonathan Solomon, qui lui appartient au conseil de la nation Mushgewik, pardon pour la prononciation, Les leaders autochtones et le MPD blâment notamment la bureaucratie fédérale dans cette affaire. En octobre dernier, Ottawa a octroyé 155 millions de dollars supplémentaires pour la santé des enfants autochtones. Ils n'ont pas dépensé un sou à ce jour. Si c'était des enfants blancs, les fonctionnaires seraient virés, a déclaré le député néo-démocrate Charlie Angus. Charlie Angus, qui est un élu néo-démocrate du nord de l'Ontario. Donc, c'est sa circonscription qui est en cause ici. On poursuit dans les nouvelles du jour. On se transporte à l'international du côté de l'Inde. Un article de Mediapart que j'ai remarqué pour vous, on parle de la démonétisation de l'Inde. Démonétisation qui commence à faire des ravages, indique le journaliste Guillaume Delacroix. Deux mois après la disparition des deux principaux billets de banque en circulation dans le pays, les destructions d'emplois se multiplient et les salaires dégringolent. Ce reportage de Guillaume Delacroix est fait directement dans la région de Bombay, où la situation ne semble pas partie pour s'améliorer, dit-il, tandis que la banque centrale va avoir besoin de 7 mois au minimum pour fabriquer l'équivalent de l'argent disparu. Depuis que l'argent liquide s'est volatilisé partout en Inde, il n'y a plus de boulot pour personne parce que les entrepreneurs n'ont plus de billets de banque pour payer les salaires. Début novembre, près de 90% de l'argent liquide en circulation s'est évaporé, rapporte le journaliste. Quelques 94 milliards de billets de 500 et de 1000 roupies ont fini à la poubelle et en cette mi-janvier 2017, les nouvelles coupures imprimées par la Banque centrale commencent à peine à apparaître dans les porte-monnaies des plus modestes. Signe que le système monétaire se détend très légèrement, le plafond de retrait quotidien aux distributeurs automatiques de billets a été relevé de 2000 à 4500 roupies, donc de 27 à 62 euros, soit peut-être autour de 100 dollars canadiens au tout début de l'année, donc au tout début du mois de janvier, et il est à présent ce plafond à 10 000 roupies. Donc la situation s'améliore un petit peu à pas de tortue. Le problème logistique demeure, écrit le journaliste Guillaume Delacroix, car ces annonces émises par la Reserve Bank of India restent théoriques. Les distributeurs de billets ont beau être autorisés à cracher davantage de billets, ils restent insuffisamment alimentés pour pouvoir satisfaire la demande. Les Indiens ont eu à peine plus de 8 semaines entre le 9 novembre et le 30 décembre pour rendre leur vieille coupure, tandis que la Banque centrale, elle, va avoir besoin de 7 mois au minimum pour fabriquer l'équivalent de l'argent disparu. Entre-temps, le choc monétaire frappe l'emploi de plein fouet et des centaines de millions d'intérimaires sont sur le carreau. Dans le bâtiment et les travaux publics, secteur parmi les plus pourvoyeurs en emploi dans le sous-continent indien, les revenus des ouvriers ont chuté de plus de 80%, font savoir les fédérations professionnelles. Alors, la suppression de ces coupures à l'origine avait pour but d'enrayer la corruption et c'est un remède de cheval qui a eu de lourdes conséquences et qui finalement a apporté des désavantages et des inconvénients beaucoup plus grands et c'est vraiment une crise importante à laquelle fait face l'Inde, le peuple indien suite à la décision du gouvernement de démonétiser l'économie, soi-disant pour enrayer la corruption. On va se transporter dans les colonnes du Huffington Post, édition québécoise. On nous rapporte que des militantes environnementalistes et pro-droits autochtones ont piégé le premier ministre Justin Trudeau lors de la prise d'un selfie. C'est assez amusant, c'est presque une nouvelle insolite. La façon la plus simple d'avoir accès au premier ministre Justin Trudeau, écrit le Huffington Post, sans débourser 1 500 $ dans une soirée de financement, c'est de lui demander de prendre un selfie. Deux militantes de Divest Dal, un groupe de l'université Dalhousie, en Nouvelle-Écosse, un groupe qui milite pour l'environnement, ont saisi l'occasion lorsque le premier ministre était de passage dans leur région pour le questionner sur les droits des peuples autochtones. Alors, dans la vidéo, on peut voir que le premier ministre Trudeau accepte avec joie de se prendre en selfie avec les deux dames, sauf que juste au moment où celles-ci vont appuyer sur le déclic pour prendre la photo, elle lance une question au premier ministre qui est en quelque sorte prise au piège. Et cette question concerne les droits des Autochtones et particulièrement la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Est-ce que vous prévoyez mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones? Lui demandent les deux activistes juste au moment où le selfie est sur le point d'être pris. Et Trudeau s'écarte aussitôt, mais répond absolument oui. Donc c'est assez cocasse. Si vous trouvez ça sur Internet, ça devrait être assez facile. Ce sera sur la page d'accueil du Huffington Post dans sa version française en date d'aujourd'hui. On fait une autre petite pause avec le John Boulay Blues Quartet, si vous le voulez bien. Une pièce qui s'intitule 11h45. On va se retrouver de l'autre côté avec la revue de presse des éditoriaux. Restez à l'écoute.
J'aime ta belle robe rouge, j'aime tes beaux colliers, j'aime te voir danser. Ouh, comment tu bouges, on a toute la soirée, y'a que minuit moins quart. Y'a du monde qui parle, y'en a qui veulent danser. Moi je veux faire le party, ouh, il faut que ça saute. Sortez les tables dehors, y'a que des nuits moins quand. Si tu danses avec moi, faire un nouvel ami, laisse le fret dehors, y'a que des nuits moins corps.
Alors, il est minuit moins quart dans cette chanson du John Boulay Blues Quartet, mais en fait, dans le débrief, il est 16h41. Merci d'être à l'écoute en direct ou en rediffusion. On va passer à la revue de presse des éditoriaux. J'ai quelques textes d'opinion à vous signaler. Tout d'abord, ce texte qui paraît dans le prestigieux New York Times. Le New York Times appelle le président Obama, il en a encore le temps, à gracier quelques prisonniers qui sont, on pourrait le dire, des prisonniers d'opinion en quelque sorte aux États-Unis. Il y a par exemple Leonard Peltier qui est un militant amérindien des États-Unis qui a été inculpé de meurtre il y a 3 décennies de cela. 4 décennies, en fait, à la suite d'un procès jalonné d'irrégularité. Donc, il y a tout lieu de croire que ce militant était innocent du crime dont on l'accusait, soit le meurtre d'un policier du FBI. Il y a aussi dans cet article du New York Times, dans cet éditorial du New York Times, un appel à pardonner Edward Snowden, le lanceur d'alerte qui a permis de connaître les programmes de surveillance massive de la NSA aux États-Unis. Donc c'est un excellent papier dans les colonnes éditoriales du New York Times. Ça s'intitule President Obama's Last Chance to Show Mercy. Vous trouverez ça en date d'aujourd'hui dans le New York Times. Et autrement, dans les pages du Devoir sous la plume de Guy Taillefer, toujours dans la section éditoriale, on nous parle aujourd'hui du Brexit. Le Brexit et ses marchands d'illusions, c'est le titre qu'a donné Guy Taillefer à cet éditorial. Une analyse intéressante sur les enjeux du Brexit et sur la stratégie qu'adoptera Theresa May, la première ministre britannique, qui a parlé d'un Brexit dur, donc cette semaine lors d'un discours donné en Grande-Bretagne, un discours qui a été suivi par le monde entier, bien sûr. Donc le Brexit et ses marchands d'illusions, c'est le texte de Guy Taillefer que je vous recommande dans le journal Le Devoir en date d'aujourd'hui. Et autrement, du côté réalité du monde diplomatique, tandis qu'on a encore quelques minutes. Les vrais responsables des fausses nouvelles, c'est le titre d'un papier signé par Yevgeny Morozov dans Le Monde diplomatique en date du 13 janvier 2017. Alors, les fausses nouvelles, vous savez, les fake news, on a beaucoup parlé des fake news. On est parfois un petit peu confus. Les fausses nouvelles semblent avoir envahi l'espace public. Il y a eu toute une commotion durant l'élection qui a donné lieu à la victoire de Donald Trump. Et Yevgeny Morozov, dans ce texte paraissant dans Le Monde diplomatique, livre une analyse fine, lucide sur cette question des fake news qui ne sont pas toujours celles que l'on croit. Alors, je vous encourage vivement à lire cet article « Les vrais responsables des fausses nouvelles ». C'est dans Le Monde diplomatique en date du 13 janvier. Vous trouverez ça aisément sur la page d'accueil du Monde Diplo. On se rend à l'interview dans quelques instants. Je vous le disais d'entrée de jeu au début de l'émission. On parle de la Gambie. Aujourd'hui, il y a une crise démocratique dans ce petit pays d'Afrique qui est enclavé dans le Sénégal. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec mon collègue Adrien Blanc. Adrien, qui est l'animateur de l'émission Rendez-vous à l'antenne de CILS et de CFUV. On va entendre ça dans quelques instants. Donc, un petit topo de dernière heure, puisqu'on est vraiment dans l'actualité brûlante. Un petit topo sur la situation en Gambie. Restez à l'écoute, c'est dans quelques instants. Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9, votre rendez-vous info en fin de journée du lundi au jeudi. C'est le moment de l'interview. J'accueille en studio l'animateur de l'émission hebdomadaire Rendez-vous sur CFUV ou encore sur CILS. Bonjour Adrien Blanc.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est pas par hasard que je t'ai demandé de nous parler de la Gambie aujourd'hui, où il y a une passation de pouvoir assez pénible. C'est parce que tu connais très bien l'Afrique. Alors on va sauter tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi la Gambie et qu'est-ce qui s'y passe?
Alors la Gambie, c'est un tout petit pays. Je crois même que c'est le plus petit pays d'Afrique. C'est un pays de 11 300 mètres carrés, donc plus petit que l'île de Vancouver.
D'accord.
Avec seulement 2 millions d'habitants, donc la taille de Montréal, enfin en nombre d'habitants en tout
voilà.
cas.
Voilà.
Et c'est un pays qui est enclavé. Il est au milieu d'un autre pays, qui est le Sénégal, qui est situé le plus à l'ouest de l'Afrique. Donc voilà, on est dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Et donc la Gambie est située sur le fleuve Gambie. En fait, les frontières ont été dessinées par les colons portugais et puis ensuite britanniques. Qui avait placé là des comptoirs de commerce et de traite négrière. Donc en fait, la Gambie est assez dépendante du Sénégal et a toujours essayé soit de se démarquer du Sénégal, soit d'être en lien avec le Sénégal.
Oui.
Mais c'est un pays à l'histoire assez amusante.
Donc Gambie anglophone, Sénégal voilà. francophone.
Oui.
Bon, disons ou rappelons plutôt tout de suite à nos auditeurs que tu as passé un an en Centrafrique dans le cadre d'un stage rémunéré à l'ONU, les Nations Unies.
Un volontariat, oui.
Un volontariat. Et que tu reviens tout juste, justement, d'un voyage au Sénégal. Sénégal où ont afflué des réfugiés dernièrement suite à la crise de la passation de pouvoir. Mmh. Alors vraiment, on est dans le fil de l'actualité, on est dans l'actualité brûlante et le hasard veut que tu sois vraiment le mieux placé pour nous en parler. Alors est-ce qu'on peut faire le film du match? Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Ça origine dans les élections qui ont eu lieu récemment, c'est ça?
Voilà. En fait, le 1er décembre, il y a eu des élections présidentielles et c'était la première fois que c'était... Enfin, peut-être pas la première fois, mais en tout cas, c'était le moment où les élections étaient les plus transparentes et les plus libres. Il y a eu un long processus de démocratisation et donc là, enfin, il y avait des élections qui allaient voir une passation de pouvoir légitime.
Oui.
Et c'est donc le président Yahya Jammeh, qui était au pouvoir depuis 22 ans, qui avait organisé ces élections de manière transparente et libre. Et le 1er décembre, quand le chef de l'opposition, Adama Barrow, a gagné les élections, eh bien le président en place a dit, à la surprise générale, qu'il reconnaissait ces élections et qu'il allait quitter le pouvoir. Mais une semaine plus tard, il fait marche arrière. Il dit que non, en fait, il ne va pas partir, il ne reconnaît pas le résultat de ces élections et qu'il va rester. Donc, il a entamé un recours devant la Cour suprême. Et à partir de là, eh bien, c'est la crise politique, crise diplomatique aussi, puisque tous les pays d'Afrique de l'Ouest, même la communauté internationale, avaient reconnu la victoire du chef de l'opposition.
Il y avait des observateurs.
Voilà, il y avait des observateurs qui avaient jugé que l'élection était correcte, tout à fait correcte. Donc, ça a été des négociations, des délégations qui sont venues dans la capitale gambienne, à Banjul. Mais le président Yahya Jammeh, le président en place, a bien reçu ses délégations, mais en tout cas rejeté ce qu'on lui demandait. Lui, il voulait rester en place et demander qu'on attende la décision de la Cour suprême. Sauf que la Cour suprême devait se décider le 10 janvier. Et finalement, les juges de la Cour suprême n'étaient pas tous là, parce que ce sont des juges étrangers. La Gambie étant tellement petite, elle a besoin de juges étrangers dans sa Cour suprême.
Il n'y avait pas quorum.
Non, voilà, il n'y avait pas quorum, parce qu'en fait, ben, les juges étrangers, ils avaient un peu autre chose à faire. Hein. Il fallait venir de loin, et puis c'était des juges importants, donc ils ne sont pas tous venus. Donc la décision de la Cour suprême était reportée à avril ou mai, je crois. Enfin, et du coup, là, la CDAO, donc la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, a dit « ce n'est pas possible, l'investiture c'est le 19 janvier, selon les termes constitutionnels, donc il faut que le 19 janvier, Yahya Jammeh s'en aille ».
Donc ça, c'est vraiment l'actualité du jour. Nous sommes le 19 janvier, alors la CDAO,
oui, c'est ça,
est intervenue. Ouais. C'est une intervention à l'intérieur de la Gambie pour rétablir militaire. Donc, ce sont en quelque sorte les casques bleus de l'Afrique.
Ouais, en quelque sorte de l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est 15 pays qui sont dans la CDAO. Et les principales forces sont le Nigeria et le Sénégal. Donc, ils ont envoyé des centaines d'hommes. On ne sait pas combien, c'est secret. Mais en fait, c'est une précipitation des événements. C'est-à-dire que ce même jour du 19 janvier, le chef de l'opposition, Adama Barrow, a prêté serment. Oui. Mais comme il ne pouvait pas prêter serment sur le territoire de la Gambie, il a prêté serment à l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Puisque, en fait, légalement, c'est quand même le territoire gambien.
Oui.
Donc, il était dans l'ambassade et c'est dans l'ambassade qu'il a prêté serment. Au même moment, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté une résolution à l'unanimité disant qu'il soutenait l'initiative de la CDAO d'intervenir en Gambie. Et donc, au même moment, les militaires de la CDAO, essentiellement sénégalais et nigérians, sont intervenus en Gambie, ont traversé la frontière pour aller déloger le président. Et là, bon, Alexis, on essayait d'obtenir des informations, mais on ne sait pas encore où est Yahya Jammeh et où sont les militaires de la CDAO.
Donc, on verra si l'armée gambienne réagit, si elle laisse entrer cette force internationale africaine. On va suivre ça au cours des prochaines heures, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut prospectiver pour la suite? Donc, le président, tout fraîchement assermenté, va sûrement entrer sur le territoire à la suite des blindés africains.
À partir du moment où la situation est pacifiée, oui, il devrait entrer sur le territoire et puis diriger. Il s'est prononcé en faveur de la démocratie. Il y a beaucoup de choses à faire pour le pays, pour la Gambie, qui vivait sous un régime autoritaire. La question c'est aussi où va aller Yahya Jammeh. Est-ce qu'il va choisir le maquis? Est-ce qu'il va essayer de monter une rébellion ou pas? Ou bien est-ce qu'il va accepter l'asile que lui ont proposé plusieurs pays africains? Le Maroc, la Guinée-Conakry, le Nigeria, on dit que tous ces pays-là lui ont proposé l'asile, alors pourquoi pas?
Oui, donc bien, une concertation internationale pour favoriser...
Bah oui, voilà, c'était un peu le jeu de la carotte et du bâton. On lui avait menacé d'une intervention militaire, mais on lui avait aussi proposé de fuir la Gambie et de s'installer dans un autre pays.
Oui.
Donc il y a toujours cette option-là pour lui.
Parce que le maquis gambien, étant donné l'étroitesse géographique du pays, ça doit être très difficile de se cacher. C'est pas comme la jungle colombienne en Amérique du Sud ou d'autres pays africains. Ouais. Adrien, c'est fascinant. On y reviendra peut-être. On verra le fil des événements. En tout cas, pour le moment, grand merci pour cet éclairage.
Merci.
Merci beaucoup, Adrien Blanc. Donc, Adrien qui me disait hors d'antenne il y a quelques instants que l'opération militaire est suspendue pour laisser une ultime chance à la médiation. En effet, la force militaire constituée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a stoppé son intervention afin de donner une dernière chance à la négociation. Mais vraisemblablement, on peut s'attendre à ce que Adama Barrow prenne reprendre le pouvoir sous peu en Gambie. Donc voilà, c'était notre topo sur cette crise qui se poursuit du côté africain. Merci d'avoir été à l'écoute. Le débrief est presque terminé. On va jeter un dernier petit coup d'œil à la météo. On a 8 degrés toujours sur Victoria, au centre-ville, à 16h54. La pluie recouvre de façon intermittente le sud de l'île de Vancouver. On a de la pluie du côté de Sook. On a de la pluie du côté de Metchosin, Colwood, également un peu plus haut à Nanaimo, à Chemainus également, et même au centre-ville de Vancouver où il fait 7 degrés actuellement. Et pour les prochaines heures, ça demeure pluvieux, maussade, le mercure descendra à 5 degrés. Demain, on aura un mélange soleil-nuage et seulement 40% de probabilité d'averse en toute fin de journée. Et pour le week-end, malheureusement, ce sera le retour de la pluie. 8 degrés samedi et 9 degrés dimanche 21 et 22 janvier respectivement. Excellente soirée à tous. Merci d'avoir suivi le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9.
2017, année du 150e anniversaire du Canada, la Fédération des aînés francophones du Canada, en collaboration avec l'Assemblée francophone des retraités et aînés de la...
Bonjour, je suis Andy, votre capitaine sur le traversier vers Vancouver, et j'écoute CILS-FM.
La mer qu'on voit danser.
Ici Alexis Gagnon, retrouvez-moi tous les jours à 16h du lundi au jeudi dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous en information internationale, nationale, provinciale et locale à l'antenne de CILS FM 107,9 à Victoria.